Et vous écoutez France Culture. Une petite troupe de guerriers efficaces, dévoués et bien entraînés peut battre n'importe quelle armée. Et ça, c'est exactement ma conception du cinéma. Roger Corman, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, qui en clôture de sa 27e saison, rendra en ce dimanche un hommage franc et vibrant, massif et ému à Roger William Corman, décédé le 9 mai dernier à l'âge de 98 ans. Cinéaste, producteur, distributeur, voire acteur, Roger Corman, à la tête de véritables commando kiffeurs de la cinéphilie des viandes, d'une escouade de mercenaires va-t-en-guerre de tourne ou crève, qui comptèrent dans Lawrence, Scorsese, Coppola, Joe Dante, Nicholson, James Cameron ou Peter Bogdanovich, réalisa et produisit, budget fruit. Imagination maximum, dans l'urgence et sans garde-fou, perdre 400 films en série B. Dis-moi, Roger, avec qui dois-je coucher pour ne pas faire ton film ? S'écria un jour l'actrice Alison Hayes au bord de la pneumonie. Chronique en second temps d'émission signée Christophe Beer et Esther Teilhard. La légion des crabes géants saute sur Hollywood. C'est maintenant dans Mauvais genre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui clôt en ce dimanche sa 27e saison et qui la clôt en beauté avec un hommage casoar et gants blancs à la figure de Roger Corman, décédé donc il y a quelques semaines à l'âge de 98 ans. Roger Corman, dont nous avons vu, revu beaucoup de films, peut-être pas les 400, mais en tout cas une bonne centaine, voire deux centaines, et qui nous sert un peu de repère et de classique à méditer sans cesse. Avec nous pour rendre hommage à Roger Corman, Bertrand Mandicot. Bonjour Bertrand.
Bonjour François.
Alors Bertrand Mandicot d'abord parce que c'est Bertrand Mandicot, ce qui suffit en soi quand on connaît sa filmographie en mouvement et en développement. Et puis surtout puisque vous êtes le seul sur ce plateau à avoir rencontré, à avoir échangé, parlé avec Roger Corman.
Oui, j'ai eu la chance en 2018 d'animer une masterclass. Roger Corman venait de sortir son livre aux éditions Capricci et donc j'ai passé quelques heures avec lui à pouvoir discuter.
Et un souvenir ému, j'imagine.
Oui, parce que c'était quelqu'un de très impressionnant et en même temps un véritable gentleman, quoi. Il me faisait vraiment penser à un chat, très délicat.
Personnage félin, ondoyant.
Exactement.
Avec le coup de griffe. Qu'il faut Philippe Rouyer, Roger Corman, vous l'avez rencontré, vous ?
Eh non, j'aurais bien aimé, mais d'autres appositifs l'ont rencontré pour moi, donc.
Très bien, donc vous êtes avec nous, bien évidemment, Christophe Beer.
Bonjour
Beer.
François.
Cormanien, certes, oui, bien sûr.
Oui, bien sûr, oui.
Plus que jamais.
Oui, je n'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quelques-uns.
Oui, Corman, c'est vraiment le type de réalisateur. On a la liste sur soi en permanence et puis on coche au fur et à mesure que l'on a pu voir les films. Fausto Fazzullo, on a parlé bonjour, il y a quelques François. Temps, bonjour, du numéro spécial de Mad Movies, dont vous êtes rédacteur en chef, de même que de la revue de manga Atom. Alors là, en numéro spécial, Corman, vous avez vu tous les Corman, vous ?
Bien sûr, juste avant de venir, là. J'ai fait un revisionnage en accéléré dans le métro pour voir toutes ces productions. Non, enfin, c'est effectivement le spectre chez Corman est tellement large que c'est compliqué de l'embrasser d'un seul geste.
C'est comme Jess Franco, il y a les films qu'il a fait, les films des autres sur lesquels il est intervenu, les films des autres qu'il a un petit peu trafiqué.
Et après, il y a les films d'esprit cormanien qui ne sont pas forcément liés à Corman. Donc en fait, la descendance, elle est assez large en réalité.
Alors, on va parler de sa descendance des cormanoïdes et des cormaniens. Présent avec nous, Esther Teilhard. Bonjour.
Bonjour François.
Alors, avec vous, on parlera non pas de Corman, quoique vous soyez une fan du cycle Edgar Poe, on en reparlera.
La Chambre des Tortures.
La notamment. Chambre des Tortures, à votre direction. Mais on parlera de quelqu'un hautement mauvais genre, décédé il y a 13 ans.
Il y a exactement 13 ans,
et
cette année.
Et à qui vous avez tenu à rendre hommage, et la figure évidemment s'impose dans une émission comme Mauvais genre.
Jean-Luc Le Ténia.
Jean-Luc Le Ténia dénonce son nom et tout un programme, et on va voir que sa vie et son œuvre le sont également. En attendant, entrons dans l'univers colossal, protéiforme, de Roger Corman. Voilà, musique de Monsieur Rouillet.
Howard Shore, pour le film de Jonathan Demme, Le silence des agneaux.
Ah oui, Jonathan Demme, qui est un cormanien, bien
évidemment. Bah, qui sort de l'écurie Corman.
Et qui, comme d'autres, ont aimé après faire jouer Corman dans leur film. C'est le premier à faire ça, c'est Coppola qui a fait ça sur Le Parrain 2. Il lui avait donné un rôle de sénateur et Corman était très bon. Ils se sont tous dit, c'est très marrant de faire jouer Corman. Il joue plutôt bien et alors on peut pas tout lui faire jouer, mais il est dans Le silence des agneaux.
Alors Roger Corman, on lui a épinglé tout un tas de surnoms et de pseudonymes. Le roi du cinéma pop, le patron, le parrain spirituel du nouvel Hollywood, le roi du film culte, le roi de la série B. Pourquoi tout cela? Mais parce qu'effectivement, on évoquait 400 films. Il était né, Corman, en 1926, et donc il décède il y a quelques semaines, en 2024. Le personnage, au début, n'était pas franchement fait pour faire du cinéma, et surtout du cinéma tel qu'il l'a pratiqué, puisque son père était ingénieur, famille catholique américaine, tout ce qu'il y a de rigoureuse, stricte. Le jeune Corman, sportif, commence à faire des études scientifiques, des études d'ingénieur comme papa, se dirige vers l'ingénierie aéronautique, mais les parents avaient commis la grande erreur, quand il était adolescent, de lui faire lire Edgar Poe. Donc la graine poesque avait dû être plantée profond et germée intensément, puisque le jour où il trouve enfin un travail comme ingénieur, eh bien 4 jours plus tard, il va voir son employeur et lui dit « Désolé, j'ai commis là une grave erreur, j'arrête tout, ça n'est pas ma vocation d'être ingénieur. » Et qu'est-ce qu'il choisit comme activité? Coursier à la Fox, parce qu'effectivement, le cinéma l'appelait, il y avait vraiment une vocation cinématographique, et à partir de ce petit poste de vague-mestre à la Fox, il entame une carrière qui a duré presque, faut dire, presque 70 ans. Une carrière qui l'a vu notamment travailler quelque temps, peu avec les grands studios, et puis surtout créer énormément de maisons de production, de maisons de distribution, et puis surtout devenir un peu le spécialiste d'un cinéma tourné en très peu de temps, avec très peu de moyens, mais où l'inspiration, une véritable comme ça de tension dans la création, à la fois sur le plan du scénario, faisant même 2 ou 3 films à la fois, sur le plan du scénario, sur le plan de l'interprétation, des décors, était toujours une sorte d'urgence extrêmement fructueuse et créatrice. Et puis travaillant bien évidemment aux 4 coins du périmètre du cinéma de genre, depuis le film préhistorique jusqu'au film de Viking, en passant, on l'a cité, par les adaptations d'Edgar Poe, par des films de monstres géants, de monstres marins, d'attaques d'extraterrestres. Corman, c'est tout l'univers du cinéma de genre rassemblé en une seule filmographie, une seule vie et une seule inspiration. On va faire un rapide tour de table, non pas pour développer des idées au début, mais simplement pour avoir une impression comme ça. Bertrand Mandico, alors Corman, si vous deviez le symboliser, l'incarner en une sorte d'image comme ça, avec autre que ses surnoms un peu bancals qu'il a pu recevoir.
Non, mais c'est l'homme de cinéma que je trouve fascinant. C'est-à-dire qu'à la fois, il est réalisateur, il a réalisé un grand nombre de films, comme vous l'avez dit. C'est aussi un producteur, donc producteur de ses propres films. L'économie est toujours présente dans sa façon de faire. Hein. Il va tirer parti d'un décor, il va se dire, tiens, j'ai ce décor, c'est idiot, j'ai quelques jours avec ce décor, je vais écrire une histoire, je vais profiter de ce décor pour faire un film. Il fait feu de tout bois. Il est donc un découvreur de talents, de cinéastes qui sont devenus extrêmement célèbres, comme Coppola et Cameron, par exemple. Et alors là, pour moi, c'est le grand paradoxe de Corman, c'est que c'est un économe et il va enfanter les cinéastes les plus dépensiers d'Hollywood. Ce qui reste un grand mystère. C'est d'ailleurs une question que je lui avais posée. Je lui ai dit, comment vous expliquez que vous, l'économe, vous ayez mis au monde 2 cinéastes extrêmement dépensiers? Et il m'avait répondu que s'il n'avait pas travaillé avec lui, il dépenserait beaucoup plus. Donc en réalité, ils sont économes dans leur mégalomanie. Voilà, donc c'est tout ça que j'aime chez Corman, et le découvreur aussi d'acteurs et d'actrices.
Christophe Beer.
Oui, le titre de ses mémoires, c'est « Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime ».
Ils sont publiés chez Capricci, d'ailleurs. C'est le
mais ce qui n'est pas tout à fait exact, d'ailleurs, mais ramené à la filmographie pléthorique, on peut dire que le titre reflète presque la vérité. Il avait fait un film qu'on a souvent évoqué à mauvais genre, « The Intruder », qui est un film donc contre le racisme dans un État du Sud.
Un roman de Charles Beaumont,
un film extrêmement noir. C'était un de ses film préféré, mais ce film-là lui avait fait perdre de l'argent. C'est une des rares exceptions. Et puis, il y a eu tous ces déboires avec les grands studios. Ce qui l'a conforté dans cette économie d'indépendant. Oui, c'est le terme d'indépendant, je trouve qu'il lui colle vraiment bien à la peau. Il a souvent expliqué que, par exemple, quand il a fait Les Anges Sauvages avec Peter Fonda, film qui a quasiment créé, pas tout à fait, mais qui a lancé toute une mode des films de bikers, il disait que le point de vue qui l'intéressait, puisqu'au début, le scénario prenait le point de vue des gens de la ville qui voyaient débarquer chez eux tous ces bikers en Harley. Il disait, mais ça, on s'en fout, ça m'intéresse pas. Moi, ce sont les anges sauvages qui sont au cœur de mon film. Ce sont eux les héros. C'est le point de vue de ces rebelles qui m'intéresse. Et c'est un peu dans sa filmographie, c'est toujours ce point de vue-là qui intéressait cet homme de l'indépendance, d'un cinéma. On a parfois aussi ajouté le terme de marginal. Donc on peut penser à un film comme l'horrible cas du docteur X.
Dont on va parler.
Il s'est un peu identifié à ce personnage dans la mesure où c'est un médecin qui tente des expériences lui-même et qui est rejeté par l'establishment médical. Donc il y avait toujours ça. Alors Le Chat me plaît aussi beaucoup parce qu'effectivement c'est un homme qui retombait tout le temps sur ses pattes. Dans la mesure où, oui, j'allais dire sur ses pieds, mais comme c'est un chat,
poser la question, sur quoi peut bien retomber un chat
avec cette idée incroyable de parfois de faire deux films en un. C'est ce qu'on appelait aux États-Unis les back-to-back. Une fois, je crois que c'était Monty Hellman qui lui propose avec Jack Nicholson de faire un western. Corman dit, après avoir réfléchi quelques secondes, oui, vous allez en faire deux. C'était ça, donc c'était quand même assez extraordinaire. Donc, pour moi, et alors c'est un homme qui s'est battu. En fait, il a créé cette écurie Corman, qui ont vu éclore tous ses talents. C'était une chance pour ces gens dans les années 70 de savoir qu'il y avait Corman qui existait, qui était là avec sa maison de production. Lui n'a pas eu cette chance. Hein. Vous avez évoqué son parcours à la Fox comme coursier. Ensuite, il a été lecteur de scénario. Il s'est rendu compte qu'on lui piquait ses... Enfin, il n'était pas reconnu pour les idées qu'il apportait. Ça a été très, très difficile pour lui d'entrer dans ce milieu du cinéma. Dans les années 50, c'était loin d'être évident.
Donc, il a créé son propre milieu. Fausto Fasulo.
Alors, ça va être dur. Plus ce tour de table va avancer, de dire des choses. Je vois Philippe qui secoue la tête, de dire des choses pertinentes et ne pas se répéter. Bon, en un mot, pour moi, Corman, c'est vraiment la liberté, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était à la fois lui-même très libre et qui laissait les coudées franches aux réalisateurs qui travaillaient pour lui, à quelques conditions assez évidentes qui étaient celles de tourner rapidement et pour pas trop cher. Mais ce que Corman était aussi, c'était un grand cinéphile. C'était quelqu'un qui connaissait vraiment très bien le cinéma et quand il faisait quelques notes, justement, de production, à un réalisateur, à un monteur, ces notes étaient, comme le disait justement Joe Dante, très incisives. C'était quelqu'un qui avait une vision très claire de là où il voulait aller. C'est en cela qu'il se diffère d'autres, je pense, d'autres producteurs. Par ailleurs, aujourd'hui, si vous faites un rapide sondage parmi une frange de la population plus ou moins cinéphile, vous verrez que c'est très compliqué en fait de trouver des personnes qui soient capables de vous citer quelques noms de producteurs. Roger Corman revient toujours dans les noms qui sont cités. Et ça en dit long sur l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire du cinéma.
Philippe Couillet.
Oui, bah parce qu'un bon producteur, c'est toujours en fonction de ce qu'il a produit qu'on retient. Et pour rebondir avec ce que disait Bertrand au début, moi je pense que au contraire, ses enfants, c'est comme dans la vie, les enfants, soit ils font un coupé-collé de leurs parents, soit au contraire, ils s'affranchissent. Et l'idée était de s'affranchir de Corman après avoir montré qu'ils étaient tellement à l'os, tellement à l'économie, tellement privés, ils n'ont eu qu'une envie, c'est de s'épanouir sans compter. Parce que moi, si je définissais Corman, je dirais que c'est l'artiste, l'artisan et le tiroir-caisse. Et c'est extraordinaire de voir comment on peut mélanger les deux, c'est-à-dire une connaissance très précise d'une économie du cinéma, d'une sorte de cahier des charges, et en même temps d'avoir cette liberté dont parlait Fausto. Et de retrouver une sorte d'intégrité artistique tout en ménageant le cahier des charges. Et ça, c'est quand même assez éblouissant.
C'est ce que disait d'ailleurs Corman. Il disait à ses réalisateurs, le jour où vous ne travaillez plus avec moi, c'est que vous avez réussi.
Alors Philippe, moi j'ai une question.
Bertrand Mandico.
Vous qui avez vu le dernier film de Coppola, Mégalopolis, y a-t-il des traces cormaniennes dans ce film hein?
Ah oui, absolument, absolument, parce que il y a un côté péplum nanardesque. Enfin, on s'offre une course de char, par exemple, alors que c'est compliqué. Enfin, je veux dire, on prend beaucoup d'argent pour, on dépeint des orgies romaines et évidemment dans un futur actuel. Quoi. Le film n'est pas un péplum, c'est un péplum de futuriste. Hein. Donc oui, il y a une trace cormanesque avec en même temps. Pour le coup, on dépense sans compter, puisque le film aurait coûté 125 millions, Coppola aurait hypothéqué ou vendu ses vignes.
Enfin, bon,
je demande à voir les budgets de manière plus sérieuse. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'argent sur l'écran, et de temps en temps, on a vraiment l'impression de voir pire qu'une série B. Mais le film est très impressionnant, parce, justement pour ça, pour ce mélange, même si, me semble, peut-être on reparlera ici, que l'entreprise n'est pas réussie, elle est passionnante et elle impose le respect.
On en reparlera en temps voulu, en tout cas pour connaître au mieux la voix, la vision et la vie de Roger Corman. Je rappelle une seconde fois comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime, son autobiographie parue aux éditions Capricci. En attendant, bien nous allons égrener un peu quelques classiques de la filmographie cormanienne. Chacun son Corman. On commence avec vous, Bertrand Mandico, et avec Mitraillette Kelly.
The head of the gang is George Kelly, sometimes known as Machine Gun.
Charles Bronson as Machine Gun Kelly brings shockingly alive the time of as vicious a killer as you've ever known. Susan Cabot as Flo, his girl.
Voilà, Machine Gun Kelly de Roger Corman, 1958, inspiré d'un personnage authentique, un peu dillingérien, et surtout naissance à l'écran d'une star nommée Charles Bronson. Alors, Bertrand Mandico, pourquoi Mitraillette Kelly ?
Mais pour ce rapport à l'acteur, hein, ce que je trouve passionnant chez Corman, puisqu'il y a plein de portes d'entrée, hein, dans, qu'on en a compris avec l'œuvre de Corman, c'est son rapport aux acteurs et aux actrices. Et en l'occurrence là, il va proposer à Charles Bronson un premier rôle dans un film de gangster, un film très très nerveux, et Bronson va déployer un jeu quasiment opposé à ce qu'il va faire par la suite dans les films qui l'ont rendu célèbre. C'est pas du tout le Bronson erratique, c'est un Bronson teigneux, nerveux, qui en fait des tonnes même hein, en jouant, et ça je trouve ça très très passionnant de voir la naissance d'un acteur comme ça. Et pour moi c'est symptomatique de l'œuvre de Corman, c'est ouvrir la porte comme ça à des fortes personnalités comme également Jack Nicholson qui voulait être cinéaste au départ et qui a fini par être acteur au contact de Corman en jouant dans des films, en jouant dans les films aussi de Monty Hellman que produisait Corman. Il y a Dennis Hopper aussi, Bruce Dern. Donc voilà, il y a ce qui m'intéresse beaucoup moi chez Corman, en dehors des films hein, dont on peut parler, mes collègues vont approfondir ce sujet-là, mais c'est cette façon de pouvoir attirer autour de lui une pépinière de talents et leur donner l'occasion de s'exprimer.
Oui, d'autant plus que là, on voit le génie de Corman d'utiliser au maximum peu d'éléments, parce qu'il y a Bronson qui n'est pas encore une star, dont il joue formidablement, puisque le personnage fait un peu penser à Edgar J. Robinson dans Avoir ou pas, je crois, de John Huston, qui est une espèce de chef de truand qui règne sur une bande. Et puis, à un moment, il y a un orage, et on se rend compte que Robinson est terrorisé par l'orage et commence à se décomposer, et sa femme se fout de lui. C'est quel argot ! Et c'est tiré donc des Hemingway. Et là, on retrouve une situation identique dans Machine Gun Kelly, puisque Bronson, qui joue à la fois personnage extrêmement monolithique, violent, sadique même, puisqu'à un moment il fait écharper le bras d'un de ses complices traîtres par un jaguar qui a été capturé par un garagiste, qui est une espèce de petite fauverie comme ça à l'arrière de sa boutique. Et donc il y a cet aspect sadique, violent, il mitraille à tout va. Et quand il voit apparaître un objet, je veux dire, qui relève du monde funéraire, il se décompose. Et c'est très bien. Et donc, il suffit de pas grand-chose pour habiter l'histoire. Il suffit d'un puma, bon, faut déjà pas en récupérer un. Il suffit d'un cercueil et puis de Charles Bronson. Mais ça fait pas grand-chose. Et ça crée c'est comme les films de Tourneur, ça crée un drame.
On parlait de cinéma à l'os tout à l'heure, mais effectivement, c'est avec peu d'ingrédients, Corman va pouvoir tenir son film, créer une tension comme ça. Et puis aussi en poussant les curseurs, puisque c'est des films extrêmement cruel, il va être plus politiquement incorrect que les films d'Hollywood et pouvoir aller beaucoup plus loin dans ces films. Alors moi, il y a une image d'un film produit par Corman qui me fascine assez, qui pour moi représente curieusement le cinéma de Corman. C'est une image de Cockfighter de Monty Hellman. Dans Cockfighter, il y a un combat de coq dans une chambre de motel, combat filmé au ralenti sur la moquette. Et cette image, pour moi, représente le cinéma de Corman.
Et pourquoi ?
Parce qu'il y a à la fois l'idée du motel, donc du studio du pauvre, on va louer une chambre d'hôtel, et en même temps quelque chose qui a énormément de panache, extrêmement cinématographique, extrêmement provocateur, qui est ce combat de coq filmé au ralenti. C'est cette rencontre quasiment surréaliste hein, de coq et d'un motel qui pour moi pourrait synthétiser le cinéma de Corman.
Osto ?
Et puis il y a aussi Mitraillette Kelly en témoigne, c'est cette idée de cinéma de l'urgence, puisque Mitraillette Kelly c'est quand même 8 jours de tournage. Hein.
Ah oui.
8 jours de tournage pour 100 000 dollars de budget. Donc ça en dit long sur la capacité à Corman à pouvoir emballer une histoire qui se tient et qui reste en plus dans le paysage du cinéma pendant de longues années pour pas grand-chose.
Et surtout la manière d'utiliser les acteurs. Parce que dans ce film, on se souvient de tout le monde. Alors Bronson, bien évidemment, mais je crois que c'est Susanna Abbott qui joue la femme fatale. Oui. Elle est formidable. Il y a les complices qui sont absolument inénarrables. Il y a la petite fille qui est enlevée un moment, la fille de l'industriel, qu'on n'oublie pas.
Mais chacun sa part du lion, c'est
tout le monde
comme ça chez Corman en plus.
C'est extraordinaire. Il n'y a pas du tout de... Personne n'est sacrifié, ou tout le monde est sacrifié, bien sûr, par l'histoire. Mais par le metteur en scène, personne n'est sacrifié.
Y a un aspect effectivement est très important dans le système Corman, c'est l'aspect collectif. Il est à la fois en fait devant la caméra et il est derrière la caméra. Il suffit de voir le nombre de techniciens qui ensuite ont retravaillé ensemble, parfois dans des productions qui n'étaient pas chapeautées par Corman. Donc il y a toujours cette idée de collégialité chez lui, cette idée de bloc, et en définitive, je crois que c'est un des cinémas les plus organiques qui soit en fait, le cinéma de Corman.
Bertrand Mandico.
Oui, parce que c'est un film est une étape dans une collaboration, c'est-à-dire qu'il est en flux continu avec les personnes avec qui il travaille, les acteurs. Alors vous parliez tout à l'heure de Monty Hellman et des deux westerns, mais il va y avoir ces cinéastes qui sont autour de lui, Coppola qui va commencer comme monteur et puis du montage d'un film, il va passer à la réalisation et tout ça on est dans un flux continu et il y a l'idée du collectif. C'est peut-être le producteur le plus communiste d'Hollywood, finalement.
C'est vrai que chez Corman, Christophe Beer, tout le monde doit tout faire. Ah oui, tout le monde sûr, peut tout faire. Il ne faut pas dire « Ah non, là, c'est pas dans le contrat. »
Tout le monde peut tout faire. Je pense que c'est surtout ça. Tout le monde peut tout faire, en fait.
Y compris revêtir la peau d'un ours et dévaler une colline. Oui, ça... Non, mais pour les acteurs, l'époque était aussi à la méthode, à l'Actor Studio. Et... Corman avait eu une déconvenue avec Suzanne Cabot dans un précédent polar, Teenage Doll, où il avait filmé une scène avec Suzanne Cabot et l'actrice qui joue sa mère, une scène d'émotion. Mais il avait d'abord filmé en plan large, ensuite il s'était rapproché d'elle pour un plan plus serré où elle devait retrouver cette émotion et ça ne donnait rien. Elle lui a dit « mais j'ai tout donné dans le... » Enfin, elle n'a pas dit dans le plan là, j'ai tout donné là, à l'instant. Et donc, en ingénieur qu'il était, enfin toujours et curieux, homme de grande curiosité, il s'est dit, je dois comprendre ce qu'est un acteur, comment ça fonctionne. Et c'est là d'ailleurs qu'il a rencontré Jack Nicholson. Il est allé voir un grand second rôle hollywoodien, Jeff Corey, qui avait un cours de théâtre. Et il lui a dit je dois m'inscrire. Il voulait d'ailleurs s'inscrire comme auditeur libre, enfin comme spectateur. Corey lui a dit non, il faut venir à mon cours et il faut y participer. Et il a commencé à comprendre comment pouvaient fonctionner ces êtres étranges que sont les acteurs. Et dans ce cours, il y avait notamment Jack Nicholson qu'il a repéré, qu'il a fait tourner tout de suite après, en 58 déjà, dans un autre polar que Mitraillette Kelly. Et il y a aussi dans Mitraillette Kelly... ce rôle féminin donc de Suzanne Cabot qui est vraiment remarquable, qui est un personnage de femme forte comme on en avait encore peu vu dans ce cinéma d'action, dans les films noirs. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver assez souvent dans la carrière de Corman. D'ailleurs, en 70, je pense à un autre polar, Big Mama, avec Shelley Winters. Il est très attaché aux personnages féminins. Et d'ailleurs, c'est aussi un des premiers à Hollywood à donner sa chance à des réalisatrices.
Alors Corman, découvreur de talents, d'acteurs et d'actrices, mais également, je dirais, réutilisateur de stars en leur crépuscule. Et ça, Philippe Rouillet, ça va être le cas dans, évidemment, la série Poe, le cycle Poe Lovecraft, on le va revoir, puisque au cœur même de cette série, il y a la figure de Vincent Price, qui n'était pas franchement un débutant et qui sera parfois accompagné de Boris Karloff,
Peter Lorre,
et de Lon Chaney Jr., comme quoi hein, on réutilise sans problème les morts vivants d'Hollywood.
And whose body is this I am now occupying?
His name is Charles Dexter Ward.
My great-great-grandson. Perfect.
All the others were useless. You would not accept them.
No matter.
Where's Jabez?
Here, Joseph.
Oh, Jabez, my old friend. Well, we three together again.
Voilà un extrait de La Malédiction d'Arkham, titre français, de Roger Corman, d'après Edgar Poe et H.P. Lovecraft. Alors ça, Philippe Rouillet, c'est ce qui a, d'une certaine façon, un petit peu imposé la figure de Corman parmi, je dirais, une cinéphilie peut-être plus classique.
Plus classique, cas, c'est ça.
Plus flamboyante.
Parce que justement, enfin, je veux dire, ce cycle Poe-Corman, c'est 8 films entre 60 et 64, produit non pas par lui, mais par l'American International Picture, Samuel Arkoff et James Nicholson. Et par rapport à ces débats d'exploitation, c'est une volonté de revenir à l'Eastman Color, de revenir au scope, et avec toutes sortes de plus dans le décor, dans l'image et tout ça, pour lutter contre la télévision et donner l'impression qu'on peut faire un cinéma de genre, mais qui soit riche. Hein ? Alors évidemment, la richesse chez Corman, c'est toujours, ça paraît toujours plus riche que ça ne l'est, mais parce qu'il sait, s'appuyer sur des collaborateurs très passionnants, comme pour les décors LR, et puis pour la photo, c'est à la fois Nicholas Roeg, ou là, comme on a entendu, Floyd Crisby, qui était déjà le chef-op de Tabou, hein, de Murnau et du Train sifflera trois fois, hein, et qui fait tout un travail dans le cycle Poe sur le côté rutilant. Ce sont des films d'inspiration gothique, hein, on mise sur les costumes, sur les décors, et sur une espèce de richesse qui va contraster avec le côté extraordinairement décadent des personnages. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, François, la rencontre de Corman avec Poe, c'est son adolescence. Enfin, il est très fasciné par ça, et c'est son idée à lui de d'entamer ce cycle. Et j'ai retrouvé dans un vieux positif là qui date de mars 64, numéro 59, qui avait justement le masque de la mort rouge en couverture, un entretien avec Ben Ayoun où il explique bien: vous n'imaginez pas le mal que j'ai eu à imposer Poe. Les producteurs pensaient que Poe était un inconnu en Amérique, à l'exception des intellectuels. Il redoutait d'intéresser en tout et pour tout les étudiants en lettres. Et miser sur cette loi fondamentale de l'époque, on ne peut pas faire un bon film d'épouvante sans monstre. Il me suppliait d'introduire dans mon premier essai, La chute de la maison Usher, un joli petit monstre, entre guillemets, dans le genre de celui fameux que j'avais mis dans It Conquer the World. Finalement, pour avoir la paix, je leur ai dit ceci qui est assez juste: dans Usher, le monstre, c'est la maison. Ils ont capitulé, et le succès du film leur a donné le goût d'Edgar Poe. Maintenant, ils ne veulent plus que de l'Edgar Poe. Quand j'ai tourné l'adaptation d'un roman de Lovecraft, j'ai dû mettre en exergue quelques vers d'Edgar Poe et intituler le film The Haunted Palace, c'est donc la malédiction d'Arkham en français. Je ne me plains pas, il est certain que j'ai trouvé plus de plaisir à tourner la série Poe qu'à toute autre entreprise de ma carrière, mais on a beau aimer les ice cream, on a envie de faire quelques repas où ne figurent pas ces entremets. Et voilà, et c'est très révélateur de ce travail-là. Et donc, La Malédiction d'Arkham, c'est vraiment le sixième film, c'est un moment où, de la série, c'est un moment où Corban commence à se lasser, il se dit, mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas bifurquer et faire une série Lovecraft, dont il était également lecteur. Et donc, il prend l'affaire Charles Dexter Ward. Et en fait, les producteurs lui disent, on a fait une recherche, Et finalement, votre Lovecraft est assez peu connu, et donc il faut rester à Poe. Et donc, puisque le scénario est prêt, on va pas gâcher, mais mettez-nous un petit peu d'Edgar Poe dedans. Et donc, c'est comme ça qu'à la fin, le personnage de Vincent Price, mais vraiment sur la toute fin, sur le générique de fin, lit quelques vers de Haunted Palace, qui en fait est un poème qui se retrouve dans la chute de la Maison Rochère. C'est pas un conte de Poe en soi. Mais c'est vrai que après ce que disait Corman, c'est un demi-Poe et un demi-Lovecraft. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui est marqué par cette série d'Edgar Poe. Donc c'est Vincent Price qui se retrouve hanté par son aïeul, sorcier, etc. Donc vraiment, on a toute la thématique, mais avec une esthétique un peu différente. Le film est beaucoup plus sombre. Pour le coup, il est moins rutilant, et c'est l'idée qu'on va essayer de se rapprocher plus de Lovecraft, même si, d'ailleurs, j'ai parlé de l'affaire Charles Dexter Ward, mais au passage, il glisse un peu du cauchemar d'Innsmouth aussi, sur la fin.
J'ai pas de mal à se faire plaisir.
Voilà, c'est le côté, on va tout mélanger, et la musique de Ronald Stein qu'on a entendue est, à mon sens, une des plus belles
sublime,
du cycle.
Sublime.
Et alors, si, faut toujours être très pratique à mauvais genre. Si ça vous intéresse, il y a un magnifique coffret chez Sidonis avec les 8 films qui sont en Blu-ray et en DVD dans un rendu exceptionnel. Sidonis qui a aussi sorti Mitraillette Kelly c'est un DVD à part. Mais il y a ce coffret avec aussi un petit livre de 170 pages qui est comme toujours dans leur collection une belle compilation avec des entretiens, des choses comme ça qui donnent des bons repères.
Ce qui est intéressant, d'une part, c'est un film de 58, le démarrage, c'est 60,
oui. 60
pour Hocher, 60-64. Je veux dire, c'est vraiment l'époque d'une espèce de redécollage du cinéma fantastique mondial, avec aussi bien l'école italienne qui a démarré en 56, Mario Bava, Antonio Margheriti, la Hammer, c'est 58, et Corman, d'une certaine, entre guillemets, accroche les wagons en 60. Donc, en l'espace de quelques années, le fantastique et l'horreur gothique redécollent dans le cinéma mondial et l'imaginaire fantastique. Et quand même, la série des Poe, elle est tout entière centrée et pivote autour, elle tourne autour de la figure de Vincent Price. Alors ça, c'est quand même pas rien, puisque le personnage était connu. Il avait une carrière à Hollywood de quand même, qui était déjà longue, dans les films de Preminger et autres. Et puis, il impose une dimension qui n'est pas celle de l'horreur frontale, de l'épouvante, je dirais, comme ça, horrifique, immédiate, avec une espèce de style à la fois indolent, pervers, une sorte de mollesse un peu hautaine qui se combine avec un sentiment d'angoisse, et ça crée quand même une atmosphère. Il est à lui-même seul l'atmosphère de tout, et il n'y a plus qu'à mettre autour de Vincent Price, et avec son air de grand chien battu mais qui peut se révéler extrêmement carnassier, de mettre des décors qu'on rachète un coup à la MGM, un coup à un autre studio, de faire une musique adaptée, de mettre évidemment de disperser tout autour des brouillards et autres, et de donner à la série quand même une dimension largement psychologique, puisqu'on parlait de cette série. Donc il y a le puits et le pendule. Hier, vous avez vu ce film, on est bien d'accord que le puits et le pendule, on attend pour voir le pendule, le fameux pendule qui tranche la chair et qui se balance comme ça. Il n'arrive vraiment qu'à la fin, après toute une mise en place psychologique, voire psychanalytique.
Oui, c'est vrai. Mais dans cette session Poe, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est cet héritage du père toujours très très présent, du père malfaisant qu'on voit sur les tableaux, qui hypnotise tout le monde et qui tient tout ça, et cette figure toujours du docteur malfaisant en arrière-plan, qui est une sorte d'intrant, un prédateur tapis dans l'ombre. C'est très très fort, c'est génial. Mais le vous disiez qu'il n'y avait pas de monstre. Bah le monstre, c'est Price, quoi. Il tient le truc, il est carnassier, il est terrible.
C'est pour ça que pour la malédiction d'Arkham, qui était un pas de côté par rapport à la série, qui vient, donc le sixième après le corbeau qui avait une tendance au comique, au pastiche, et donc c'était la volonté de se renouveler, à l'origine, Corman voulait éviter Price, ah bon, en disant il est trop connoté. C'est-à-dire que dès qu'on va le voir arriver, on saura que c'est ce que vous dites. Ça va mal se passer, que finalement, c'est le salaud. Il aurait préféré un acteur plus neutre dans le paquet, hein, comme un Rem Island et tout ça. Et c'est les producteurs qui ont dit « Ah non, 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 non !» Alors déjà, qu'il y a déjà un peu de Lovecraft, on reste avec Vincent Price. Il faut rouler les gens. Hein. Il faut absolument... D'ailleurs, le film s'appelle « Edgar Poe, Haunted Palace ». Enfin, c'est vraiment l'idée d'essayer de vendre Edgar Poe à toute force.
Fausto ?
J'ai une question, en fait, pour R. Dr. Mandico. au moment de la préparation de cette émission, j'étais quasiment persuadé que vous alliez prendre justement un film du cycle Poe. Il y avait quelque chose, notamment dans la recherche formelle. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que Corman est un producteur et aussi un réalisateur de l'économie, mais c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la forme. Et concernant justement tout ce qu'on a pu voir et toutes ces expérimentations sur le cycle Poe, je m'étais dit, tiens, Bertrand va probablement prendre un film de ce cycle. Donc, alors, je vous demande pas pourquoi, ça n'a pas été le cas, mais est-ce que justement ce type de réflexion plastique, esthétique, de recherche sur la couleur qui innerve tout votre cinéma, c'est une chose à laquelle vous êtes sensible dans ce cycle-là ?
Ah ben complètement. Et puis il y a des contradictions dans son cinéma. C'est à la fois la dimension baroque et le minimalisme. Il arrive à associer les deux. Mmh. C'est très très curieux, mais les films contiennent ces deux ingrédients. Et tout à l'heure, François, vous parliez du renouvellement. Oui. Des films fantastiques avec La Hammer, Bava, etc. Mais c'est la couleur qui a permis ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des cinéastes, alors tous les films ne sont pas en couleur, mais qui ont quand même modernisé la vision de l'horreur qui était présente dans les films expressionnistes ou autres, en travaillant la couleur comme un ingrédient fantastique et un ingrédient d'horreur. C'est-à-dire que l'angoisse aussi passe par cette utilisation de la couleur extrêmement pop, même si j'aime pas trop employer ce terme, mais il y a une contradiction là-dedans, et ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Je retrouve aussi cette façon de faire chez des japonais comme Suzuki par exemple, hein, qui va avoir la même économie par rapport à la couleur, une couleur expressionniste et un dispositif comme ça de mise en scène très très efficace et extrêmement impressionnant.
La couleur comme narration, en fait.
Oui, couleur ma douleur.
Oui, effectivement, avec le rouge, le masque de la mort rouge, puisque un des plus grands contes de Poe, un des plus grands films de la série, c'est le masque de la mort rouge, où la mort rouge, c'est la peste, et la peste, la couleur devient significative, et donc elle circule à l'intérieur du film, et là, il y a des choses extraordinaires. Il y a également, je crois, dans le chef de la maison Huchère, Roderick Huchère, joué par Vincent Price, qui a les cheveux blancs, a une redingote rouge vif, et donc sur ses fonds, qui sont toujours prunes, brun, marron, tabac, un peu glauque et indiscernable. Il y a des taches de sang comme ça qui sont à la fois des révélateurs et des moments criminels. Donc,
feignez l'écran et la pellicule avec cet emploi du rouge. Ouais.
Alors là, on est dans le fantastique le plus traditionnel, dans l'horreur gothique la plus classique avec Edgar Poe. On va s'aventurer maintenant dans la science-fiction la plus débridée avec d'autres films choisis par Christophe Beer.
August 14th. Notes on experiment designated X. Experimental subject, myself, James Xavier. Assisting in the experiment, Dr. Samuel Brandt. You ready, Doctor?
Ready, Doctor.
The compound, fully described in the written report, has been prepared. Dr. Brandt will administer one drop into each eye of the subject.
One drop. Any choice?
Yeah, one in the middle.
Tilt your head and look directly up. Well, here goes, James. Good luck. How long?
8 to 10 seconds.
All right. Open your eyes. James?
L'horrible cas du Dr X de Roger Corman avec Rémy Land. Il suffit d'écarquiller les yeux, de faire un petit peu de goutte à goutte, Monsieur Beer, et puis ça y est, on devient un personnage, on passe de l'autre côté.
Ça a demandé beaucoup de recherche quand même à Rémy Land pour arriver à ses gouttes. Et déjà d'abord, Roger Corman a réfléchi au scénario qu'on lui proposait. À l'origine, il y a un titre. Ça, c'est typique dans ce cinéma de drive-in ou de série B. Les gens de l'AIP, je crois que c'est un film de l'AIP, lui disent on a un excellent titre.
American International.
On a l'homme au rayon X en France, l'horrible cas du docteur X. Il faut faire un film avec ça. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent dans la carrière de Corman lui-même. Parfois part d'un titre. Et puis, à partir de là, il y avait une histoire de... ça a changé plusieurs fois. Il y avait aussi une sorte de film noir avec un gangster qui peut voir à travers, la matière. Et comme ça, il peut faire ses coups. Corman trouvait toutes ces idées, disons, pas très crédibles. Et il s'est dit, non, il faut que ces rayons X soient découverts par un médecin pour des recherches. Donc, en l'occurrence, Rémy Land considère que, en voyant à travers la peau, on va pouvoir mieux soigner, détecter les maladies des patients dans les hôpitaux pour pouvoir les soigner mieux. Et après, le film devient une sorte de parabole sur le rejet. Le personnage faisant preuve d'hubris et s'écartant de tous ses congénères. Il se retrouve, c'est un film sur la déchéance. Il se retrouve dans une fête foraine en jouant un personnage de médium avec un turban. Ensuite, il est un prétendu guérisseur dans une. Alors là, c'est vraiment une déchéance encore pire puisque il se retrouve dans une sorte de basement, là, de cave. Dernière étape du film, une sorte de révélation mystique où, à force de voir ce que personne ne voit.
Ah, voilà, ça, c'est,
ah, oui,
le,
ça, c'est le bruit du champagne.
On boit le champagne à mauvais temps pour fêter la fin de la saison. Merci, Claire Poisignon. C'est un effet cormanien.
Alors, continuez, donc, oui, je continue. Je ne sais pas, peut-être que les auditeurs ont également perdu le fil. Non, mais la fin de Monsieur X est une fin complètement incroyable, puisque il ne voit plus seulement à travers la peau, à travers la matière. Il finit par voir même Dieu ou une sorte de d'au-delà. Et ça donne au film une dimension tout à fait extraordinaire. Et alors, je voulais aussi parler des films de monstres.
Alors attendez, nous avons un monstre. Mais pendant que nous préparons le champagne, on fait arriver un monstre des abysses, bien évidemment, grâce à Laurent Poilleret.
They're coming. Humanoids from the deep. A tidal wave of rampaging creatures surges from the dark and violent sea to conquer the earth.
Maybe intelligent enough to perceive man as a competitor.
Why the girls?
It's my theory that these creatures are driven to mate with man now, in order to further develop their incredible evolution.
It's enough to scare the hell out of me.
Alors, quel film,
Oui, parce qu'on ne peut pas non plus parler de Corman sans évoquer les créatures futures, les films de créatures. Là, c'est Humanoid from the Deep, un film de 1979, mais il y a eu un remake en 1996, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les bonnes formules, il faut les recycler en permanence. Et donc, là, c'est le côté Corman farceur. Parce que souvent, quand on manque de moyens, quand on fait des films d'épouvante ou des films de science-fiction, Il faut avoir recours à l'humour, parce que avec l'humour, on peut faire passer les scories des maquillages ou des effets spéciaux. Et ce film-là, on est un exemple typique. C'est un film qui montre les méfaits de la pollution. Ça, c'est en 79. En 96, ça n'est plus les essais nucléaires, mais c'est carrément l'armée qui fait des sortes de trafic avec des hormones de croissance et ça crée des monstres. Et donc, c'était une façon toujours pour ce rebelle d'Hollywood de ménager un public jeune qui aimait voir des révoltes, des personnages de rebelles ou qui aimait voir l'establishment conspué. Donc il y a cette dimension dans les films de créatures, souvent chez Roger Corman. Ce sont des farces.
Des créatures farcesques, elles aussi. On se souvient que Frank Zappa, dans une de ses compositions, avait rendu un hommage à Roger Corman et au film It Conquered the World, en faisant tout un film autour justement de ces films de SFZ où le monstre semblait évidemment construit de briques et de brocs. Et Zappa s'amusait beaucoup, ça allait tout à fait dans le sens de son inspiration à jouer avec ça. C'est vrai que là, c'est comme la petite boutique des horreurs ou des choses comme ça. Je veux dire, il y a une monstruosité qui est de manière évidemment artisanal, sommaire, une espèce de gros trucage, de grosses ficelles, mais dont on peut à la fois jouer et faire jouer le spectateur.
Il y a le sens du grotesque.
Voilà.
Oui, ça, c'est quelque chose de très important. C'est à la fois, il y a le drame, le sérieux avec Beau, et puis il y a le grotesque.
D'autant que l'histoire du cinéma a continué. Je veux dire, quand tu parles de ce film de 79, on a eu Les Dents de la Mer en 75. Donc on ne peut pas faire un cinéma qui ignore ce que font les autres. Et tout le cinéma de Po, ça a été ça. On parlait du cycle Po qui remettait de la couleur, qui remettait du faste à la mise en scène dans un cinéma d'exploitation. Le cinéma de monstres, il devient, La Guerre des Étoiles en 77, à son lot de créatures et tout ça. Donc il ne peut pas concurrencer avec ça. Donc il faut trouver un autre moyen de les faire vivre. Et la farce et le grotesque, c'est un bon moyen.
Et alors dans les années 90, il se recycle à nouveau. Il s'intéresse au marché de la vidéo. Après, il s'intéresse aux chaînes du câble, à Channel. Il y a une chaîne du câble qui s'appelle Sci-Fi, science-fiction. Et là, il se lance dans la production de films encore plus délirants, comme Carnosaur, Dino Croc, ou Dino Shark, ou Sharktopus. Ça devient délirant. Là, les monstres sont vraiment délirants dans ces films.
On termine avec Corman, producteur, avec donc de ses films de Lewis Teague, du rouge pour un truand.
Une histoire d'amour, ça commence toujours avec un homme et une femme. Mais ça ne finit pas toujours bien. Surtout quand l'homme s'appelle Dillinger. Une fleur poussée entre les pavés du chômage et de la prohibition. Une fleur du mal.
Une fleur du mal, signée Lewis Teague et produite par Roger Corman. Alors, Corman producteur, pour terminer hélas un peu vite.
On en a un peu parlé au préalable, quand même. Voilà, de Corman incubateur de talent. On a aussi parlé effectivement du côté collectif. Lewis Teague, le réalisateur donc du Rouge pour un truand, Lady in Red. Lui avait déjà travaillé précédemment avec Corman puisqu'il avait été monteur sur Cockfighter, donc de Monty Hellman, monteur sur Crazy Mama de Jonathan Demme. Il avait été réalisateur de seconde équipe sur un excellent film produit par Corman qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, hein, La course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel. Il avait été aussi réalisateur de seconde équipe sur Avalanche, tournage sur lequel il va croiser Robert Forster, qu'on va retrouver non crédité au générique de ce du Rouge pour un truand. On parlait aussi tout à l'heure de la satire comme étant la possibilité de faire passer certaines idées un peu excentriques ou du moins difficilement finançables en termes de production. Ça, c'était un propos que tenait John Sayles, qui est l'auteur du scénario donc du Rouge pour un truand. qui était un gros scénario à l'origine de 132 pages, dans lequel Corman a dû beaucoup tailler, afin de pouvoir avoir un film d'une heure trente, qui est d'une ambition folle. Je pense que c'est probablement l'une de ses productions les plus ambitieuses. On a un peu la sensation de voir plusieurs films en un, c'est une sorte de catalogue de tout ce que l'exploitation pouvait nous proposer, c'est-à-dire film noir, drame juvénile, film de gangster, film de prison de femmes, il y a à peu près tout, en fait, c'est un pur cocktail qui à aucun moment ne ressemble à un collage. Il y a justement, je parlais de cet aspect organique de son cinéma, là le film est littéralement fusionnel entre chacun de ses éléments constitutifs, et ça se joue à la fois au niveau de la construction narrative et aussi dans le casting qui est absolument ébouriffant. On a Pamela Schumartin qui joue cette femme qui est en réalité la Lady in Red, la femme en rouge, et qui est le rôle principal du récit, parce que c'est vrai que la bande-annonce en version française qu'on a entendue parle de Dillinger, mais Dillinger, qui est incarné par Robert Conrad, est quasiment le cinquième ou sixième rôle du film. Alors il est effectivement, c'est probablement d'ailleurs l'une des incarnations de Dillinger les plus sympathiques, souriantes et douces.
Décontractée,
ouais. Ça aussi c'est intéressant. Et pour conclure, parce que je peux effectivement pas, comment dirais-je, m'étaler un petit peu plus sur le film, je rebondirai sur ce qu'avait dit précédemment Christophe sur l'importance de la femme dans le cinéma de Corman. Parfois, pour des raisons qui sont effectivement opportunistes, comme faire tourner, enfin donner la possibilité de tourner à certaines réalisatrices parce que finalement elles rencontraient plus de difficultés à trouver du boulot parce qu'elles étaient des femmes. Mais là, il y a aussi cette volonté de tourner un film de gangster, de produire un film de gangster dont le drame est vécu essentiellement par une femme qui est la fameuse Lady in Red et qui cannibalise littéralement en fait tout le casting du long métrage.
Merci Fausto. Ainsi s'achève donc l'hommage de Mauvais Genre à Roger Corman. Merci Bertrand Mandico d'avoir été avec nous pour le saluer. On passe maintenant à quelqu'un que vous connaissez, Jean-Luc Le Ténia. Alors quel rapport avec Corman ? Eh bien c'est un rapport qui est lié justement à toutes ces figures de Mauvais Genre et un Mauvais Genre absolu. Et Jean-Luc Le Ténia nous est présenté par Esther Teilhard.
Jean-Luc, 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 Jean-Luc.
Laissez-moi devenir votre gourou, je vous caresserai le minou. Parole de Jean-Luc Le Ténia, le seul représentant de l'antifolk en France, selon Didier Vampasse, ou encore le meilleur chanteur français du monde. Que nous reste-t-il de Jean-Luc Le Ténia ? Employé de la médiathèque du Mans la semaine, bête de la scène musicale alternative sartoise des années 2000. 2000 chansons sur 2000 folies. Jean-Luc Le Ténia est complètement taré et franchement talentueux. Une guitare, un synthé et sa voix, c'est tout. Ses concerts partent en vrille, il se déguise en fillette, casse sa guitare, finit à poil et rentre en rampant. Jean-Luc Le Ténia se suicide à 35 ans en 2011, il y a exactement 13 ans, dans sa ville natale, Le Mans, celle qu'il n'a jamais quittée. « Ma ville, c'est de la merde, mais je ne la quitterai jamais, ma ville merdique », dit-il. Le Mans, ville du spleen, cathédrale Saint-Julien et jardin des plantes, qui donc connaît Le Mans sera sensible à la mélancolia Le Ténia, celle du loser romantico-pervers, du clown détraqué, du pauvre type. Éducation catholique oppressante, coûte de France, grosses lunettes rondes, laissé au banc de la séduction, frustration et impuissance, tout simplement Jean-Luc. « Je ne peux pas faire l'amour, alors je fais des chansons. » Mes chansons sont les ténias de l'amour. S'inspirant de ses maîtres, Daniel Johnston et les Berruriers Noirs, Jean-Luc commence sérieusement la chanson. Très vite, son aura dépasse les frontières de la Sarthe. Il fait la première des Vampasses à la Cigale, se fait remarquer, provoque et insolence, ceux qui ont assisté à un de ses concerts s'en souviennent. Sa marque de fabrique, terminée nue comme un ténia, avec un œil au beurre noir. Ses paroles sont belles, tristes à pleurer, drôles à mourir, poétiques, carabinées, morbides. Le rapport aux femmes est obsessionnel. Je ne pense qu'aux femmes, ça me gâche la vie. Parfois, il en trouve une. Il dit qu'elle est moche, mais qu'elle a de l'humour. Jean-Luc Le Ténia, c'est aussi un talent fou pour la bande dessinée. Un fanzine intitulé Le Radis Noir, un étrange journal intime consultable en ligne Le Ténia Diary, où l'on rentre dans sa chambre le soir. Que fait Jean-Luc Le Ténia le soir ? Il se branle, regarde Shrek 3, puis un Cronenberg. Un jour, il passe le concours de facteur, il le réussit. Il ne peut pas, il arrête tout. Il pense être poursuivi par le KGB, dégénère, part en vrille, tient des propos bordeurs, s'isole de tous, picole trop. Certains manceaux se rappellent de sa silhouette frêle la nuit, virée des bars d'after. Il rentre chez lui, il est seul, très seul. Il écrit une chanson. Son titre, Jean-Luc est mort, et il se tue. J'aime Jean-Luc, il me touche, même sa violence, même sa folie. Il faut écouter Jean-Luc Le Ténia.
Jean-Luc ! Jean-Luc ! Jean-Luc ! Jean-Luc !
Merci Esther Taillard pour la présentation du personnage inouï, unique de Jean-Luc Le Ténia, que vous connaissez, Bertrand Mandicot, vous avez...
Je l'ai pas croisé, mais je connais ses chansons et c'est son minimalisme et son absurdité, ouais, c'est quelque chose d'absolument unique, quoi.
On termine cette émission, la dernière de la saison, avec vous, Christophe Beer, une exposition parisienne.
Fessiers opulents, empilement de cuisses gainées de soie charnues et suintantes, écorchés au crochet d'une chambre froide, les femmes de graphite du plus occidental des artistes japonais, Yoshifumi Hayashi, sont nées en France au milieu des années 70. Le dessinateur s'était installé à Paris pour y apprendre la peinture à l'huile. Par nécessité économique, il y renonça pour une discipline moins onéreuse, le dessin à la mine de plomb. Son apprentissage, autodidacte difficile, convient à ce fervent solitaire. Pendant 40 ans, tout en étant guide touristique, il expose et publie ses fantasmes inquiétantes images, telles que baptisées en 1978 par la galerie Jacques Casanova. L'émotion érotique qu'il provoque se nourrit d'épouvante par la tension des contrastes et un humour noir qui cède à l'effroi de la pornographie et à la tentation cannibale. Réfutant la spiritualité de l'homme, Hayashi dessine des femmes matières qui n'ont plus de tête et joue sur l'ambiguïté des formes, suggérant des mollets fessus ou un cul se métamorphosant en gland de la plus grande espèce. Ce n'est pas tant l'obscénité des chairs qui inquiète le plus, mais le cortex cérébral, d'où semblent couler les fluides, gouttelettes et flaques, proliférant sur les mobiliers, étendant son emprise par ses ityphaliques excroissances, lombriques, tentacules, boyaux et mollusques. La vérité, affirme Hayashi, est toujours la matière. Dans une évolution logique, son goût pour la dépersonnalisation tend à faire disparaître les corps, digérés en rosbif, mais non leur énergie sexuelle, éclatant dans des fleurs hermaphrodites et de vastes paysages cosmiques, îles cerveau, montagnes intestinales, calanques vulvaires. Une maîtrise absolue des dégradés est nécessaire pour révéler la subtilité de ces visions fantastiques. Chaque dessin nécessite à minima un mois de travail intensif. Jusqu'au 13 juillet, 14 rue Guénégaud, Paris 6e, ils sont exposés par Arsenic Gallery, qui édite le livre « Yoshifumi Hayashi, l'alchimie du cerveau à la mine de plomb », préfacé par Catherine Robbe-Grillet. Son auteur, Xavier Gilles Néret, citant Gilles Deleuze, voit en Hayashi l'artiste accompli de l'immanence. Cessez de se penser comme un moi pour se vivre comme un flux, un ensemble de flux, en relation avec d'autres flux, hors de soi, et en soi, le dessinateur de 75 ans, pour qui son œuvre est un phénomène biologique, est reparti au Japon, conforté dans sa certitude qu'il dessinera jusqu'à la mort, en équilibre au bord du désir, ouvert à toutes les obsessions.
Merci Christophe Beer pour cette évocation grandiose de l'exposition Hayashi. Merci Bertrand Mandicot d'avoir été avec nous pour rendre hommage à Roger Corman. Et je rappelle quand même que le meilleur livre pour entrer en contact avec cet univers phénoménal, c'est donc son autobiographie « Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime ». C'est aux éditions Capricci. Je salue bien sûr Laurent Polleret et tous ceux et toutes celles qui l'ont accompagné à la console durant cette saison. Je salue Claire Poissignon qui vient de nous amener le champagne mais qui quand même tient la boutique toute l'année. On la remercie et on la félicite. Je salue toute l'équipe de Mauvais Genre, celle qui m'accompagne donc tout au long de la saison et puis celle qui m'a accompagné dans les années précédentes. Je vous dis quand même une petite chose utile, c'est que nous serons là à la rentrée. Et d'ici là, bonnes vacances et rendez-vous fin août sur les antennes de France Culture. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Jean-Guy Lamèche, Claire Poissignon, Claire-Martin Duguerre, Esther Taillard, Philippe Rouillet, Fausto Fazulot, Bertrand Mandicot, Christophe Beer et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. Bonnes vacances à tous et à très vite.